Merci d'écouter RFI, midi en temps universel. Il est 14h ici à Paris.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour Anne Cantener, bonjour à toutes et à tous. À la une, la première intervention publique d'un dirigeant du Hezbollah au Liban après la mort de Hassan Nasrallah. Nous serons dans un instant en direct de Beyrouth, alors qu'Israël promet que la mort, l'élimination de Hassan Nasrallah n'est qu'une étape. La guerre va continuer. Alors que le pays, le Liban, est au bord de la faillite. Nous verrons ça dans ce journal. Nous entendrons aussi des familles, des proches d'otages israéliens dans la bande de Gaza. Ils sont de plus en plus inquiets sur leur sort alors que cette guerre au Liban détourne un peu l'attention. Également à la une, Marine Le Pen se dit sereine à son arrivée au tribunal de Paris. C'était il y a quelques minutes, vient de s'ouvrir le procès des emplois fictifs du Front National au Parlement européen. Également dans ce journal, l'Autriche au lendemain de la victoire de l'extrême droite avec près de 30% des voix. Place aux tractations à présent.
RFI midi.
Le Liban, donc, 3 jours après la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué par une frappe israélienne.
Le numéro 2 du mouvement chiite libanais a pris la parole tout à l'heure. Première intervention publique d'un dirigeant du Hezbollah depuis la mort du chef. On retrouve tout de suite en direct Paul Khalife, notre correspondant à Beyrouth. Paul, quels sont les principaux messages délivrés tout à l'heure par Naïm Kassem?
Naïm Kassem avait manifestement un objectif principal, rassurer les partisans et la base populaire du parti, encore sous le choc de la disparition de Hassan Nasrallah. Il a évoqué des plans de contingence activés, assuré que le système de commandement et de contrôle fonctionne parfaitement, que les commandants tombés ont été automatiquement remplacés par leurs adjoints et que les capacités militaires sont solides. Comme preuve à ces propos, Naïm Kassem a indiqué que les attaques contre Israël depuis la mort de Hassan Nasrallah se poursuivent au même rythme qu'avant, voire plus intensément. Il a prévenu que la bataille pourrait être longue et que le parti y est bien préparé, y compris en cas d'opération terrestre israélienne. Il a souligné que ce que le Hezbollah a enduré, en commençant par l'attaque des beepers et des talkie-walkie, l'assassinat des commandants, puis du secrétaire général, les milliers de raids et les milliers de morts, aurait fait vaciller les plus grandes armées du monde. Pourtant, il est toujours là. Même s'il a voulu être rassurant, le discours de Naïm Kassem laisse des questions sans réponse. Il n'a pas annoncé une date pour les funérailles de Hassan Nasrallah et n'a pas donné l'impression que le choix d'un successeur sera rapide.
Paul Khalife en direct de Beyrouth, la capitale libanaise. Le cœur de Beyrouth a d'ailleurs été ciblé ce matin par Israël pour la première fois depuis le 7 octobre avec la mort annoncée de 3 membres du FPLP, le Front de Libération de la Palestine, alors que le chef du Hamas au Liban lui a été tué lors d'un bombardement, toujours ce matin mené par Israël dans le sud du Liban. Les bombardements israéliens, ils se poursuivent, ils ont déjà provoqué plus de 1000 morts depuis la semaine dernière, selon le gouvernement libanais. Ils ont aussi provoqué le déplacement 1 million de personnes. Les bombardements se poursuivent. Paul Khalife, vous l'avez entendu, a évoqué l'éventualité d'une invasion terrestre de l'armée israélienne. Une option que n'a pas écartée tout à l'heure le ministre israélien de la Défense. Il a dit que l'élimination de Hassan Nasrallah n'était pas la dernière étape. On l'a bien compris, la guerre va continuer alors que le Liban est déjà au bord du gouffre économique depuis des années. Alexis Bédu.
Des cultures dévastées, des forêts incendiées, des terres agricoles détruites dans le sud du Liban, région qui tire 80% de son revenu de l'agriculture. Des dizaines de milliers d'oliviers ont été perdus. Les exportations de fruits et d'agrumes ont reculé de 60% selon l'Institut Statistics Lebanon. Des usines et commerces ont également été détruits dans le quartier de Dahiyeh au sud de Beyrouth. La guerre ne fait qu'empirer une situation déjà catastrophique, explique Joseph Daher, professeur en sciences sociales et politiques à l'Université Cité de Lausanne.
Dahiyeh est composée d'à peu près 500 000 à 600 000 personnes, c'est une population importante. La consommation a fortement diminué, ça, il va de soi. Les arrivées, que ce soit de Libanais, Libanaises ou d'étrangers dans le pays, a fortement été réduit, et cela depuis 7 octobre, mais encore cela s'est accéléré dans les 10 derniers jours, affectant le tourisme. On est très loin de voir un redressement de l'économie libanaise, malheureusement, et cette guerre ne fait qu'approfondir la crise économique.
Les revenus du tourisme représentent un tiers du PIB libanais. En 5 ans, la livre libanaise a perdu plus de 98% de sa valeur par rapport au dollar. Les populations ne peuvent suivre le rythme d'une inflation record qui a rendu les produits de base extrêmement chers.
À Beyrouth, encore à signaler la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Il a appelé aux côtés du Premier ministre libanais à un cessez-le-feu, alors que cet après-midi va avoir lieu une réunion de tous les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.
Et pendant ce temps, la guerre à Gaza continue.
Avec la mort ce matin d'une journaliste palestinienne et de sa famille, tuée par un tir de missile sur leur maison, le ministère de la Santé du Hamas à Gaza annonce un nouveau bilan de 41 615 morts depuis le 7 octobre dernier. Alors il y a, vous le savez, toujours des otages israéliens dans la bande de Gaza et leurs proches sont de moins en moins optimistes pour leur libération à mesure que s'étend la guerre au Liban. Envoyé spécial à Jérusalem, David Bachet.
La petite tente blanche, saturée de dizaines de portraits désormais tristement familiers pour tous les Israéliens, est installée à côté de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Objectif, maintenir la mobilisation pour la libération des otages. Sollicité par RFI et sursollicité par les médias du monde entier depuis un an, les représentants des familles n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais les volontaires qui les accompagnent, comme Omer, se font leur porte-parole.
Je veux vraiment appeler le gouvernement à prendre conscience qu'il faut parvenir à un accord. Au Liban, à Gaza, un accord est nécessaire avec toutes les entités hostiles qui nous entourent pour ramener les otages à la maison. L'action militaire à elle seule ne le permettra pas. Au mieux, certains otages rentreront chez eux et les autres seront tués. Et nous ne pouvons pas accepter ça.
Anna distribue des bracelets et répond aux questions des passants. Arrivée d'Argentine il y a une quarantaine d'années, elle voit dans l'offensive israélienne au Liban un abandon des otages.
Ça complique un peu les choses. On pouvait faire toutes ces opérations contre ceux qui nous attaquent plus tard. Il faut les bombarder, on n'a pas d'autre solution. Mais les actions les plus importantes, comme tuer Nasrallah, auraient pu se faire plus tard. Je pense que les otages ne sont pas la priorité du gouvernement. De la population, oui, mais pas du gouvernement.
Sur les 251 otages enlevés le 7 octobre dernier, 101 sont toujours détenus, selon le décompte des familles. Parmi eux, l'armée en considère une trentaine comme morts. David Bachet, Jérusalem, RFI.
Mauvaise nouvelle pour la planète et donc pour l'humanité, Florent.
Depuis 20 ans, les océans se réchauffent deux fois plus vite qu'avant, notamment parce qu'ils absorbent l'essentiellement du réchauffement de la planète, alors qu'ils couvrent 70% de la surface du globe et des eaux plus chaudes. Ça a des conséquences sur Terre avec des ouragans, par exemple, plus nombreux et plus intenses. En témoigne, par exemple, le dernier bilan d'Hélène aux États-Unis, au moins 93 morts. Au Népal, après des inondations et des glissements de terrain en pleine saison des pluies avec une mousson inédite depuis 20 ans. Dernier bilan publié à Katmandou, au moins 200 personnes ont été tuées.
L'extrême droite en force en Autriche.
Au lendemain des élections législatives où près de 30% des électeurs autrichiens ont voté pour le FPÖ, ce parti fondé par d'anciens nazis. Mais le FPÖ va-t-il avoir les moyens de gouverner? On retrouve en direct de Vienne notre correspondante Isorias. Les négociations pour une future coalition s'annoncent compliquées.
Oui, car le parti d'extrême droite FPE est certes tout en haut, mais il est bien seul. Fort de son score de 29% obtenu ce dimanche, le FPE appelle les autres partis à entamer des discussions avec lui. Mais l'ensemble des formations politiques ont exclu de négocier avec Herbert Kickl, le chef de l'extrême droite, dont la radicalité rebute. Seul le parti conservateur est ouvert à des discussions avec le FPE, mais sans Herbert Kickl. La possibilité d'une alliance entre conservateurs et extrême droite qui a déjà existé par deux fois dans le passé reste donc possible, mais on se demande comment la question du leader du FPE pourrait être réglée. L'autre scénario serait une alliance entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. Les deux partis affichent de fortes divergences, surtout en matière de politique économique, mais ils ont dirigé l'Autriche à deux durant de nombreuses années et ont donc l'expérience du compromis. Selon les résultats encore provisoires, ils disposeraient d'une très courte majorité au Parlement. C'est pourquoi un troisième parti, le Parti libéral Neos, pourrait s'ajouter à cette alliance pour former une coalition à trois inédite en Autriche. Les discussions qui vont commencer dans les heures à venir s'annoncent donc très ouvertes et incertaines.
Isorias, en direct de Vienne.
D'une extrême droite à l'autre, le procès de Marine Le Pen vient de s'ouvrir en France.
La présidente du Rassemblement national est sur le banc des accusés aux côtés de 24 autres responsables du parti qui s'appelait à l'époque le Front National et qui, selon l'accusation, faisait payer par l'Union européenne des assistants parlementaires qui travaillaient en fait pour le parti à Paris. Bref, des emplois fictifs. Marine Le Pen risque gros jusqu'à 10 ans de prison, une condamnation qui la rendrait aussi inéligible. Mais tout à l'heure, à son arrivée au palais de justice de Paris, Marine Le Pen s'est montrée optimiste.
J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire, et je ne suis pas mécontente que nous ayons le temps pour les développer, puisque 2 mois sont prévus pour ce procès et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle politique et aucune règle réglementaire, en quelque sorte, du parlementaire.
Est-ce qu'aujourd'hui vous confiez un petit peu votre robe d'avocate ?
Un assistant parlementaire n'a pas vu son député pendant plusieurs mois.
Non, mais je ne vais pas faire le procès avec vous, là, dans le couloir.
Il va durer 2 mois, on ne va pas le faire.
Donc, vous entendrez tous les arguments que nous avons à développer. Et croyez-moi, ce sont des arguments extrêmement sérieux, extrêmement solides.
Marine Le Pen, tout à l'heure au micro de Laura Martel et Robin Cusneau.
Un bateau de migrants a fait naufrage au large de Djerba en Tunisie.
Premier bilan, 12 morts et 10 personnes portées disparues au large des Canaries. Cette fois dans l'Atlantique, ce sont 48 personnes qui sont recherchées après le naufrage de leur bateau dans la nuit de vendredi à samedi.
Une nouvelle attaque de drones russes lancée sur l'Ukraine.
Et sur Kiev en particulier, une série d'attaques, 73 drones au total, mais aussi 3 missiles qui, pour la plupart, ont été repoussés. Aujourd'hui, en Russie, c'est la journée de la réunification, on dira plutôt la journée de l'annexion de plusieurs régions ukrainiennes, avec un message vidéo publié par Vladimir Poutine qui assure que tous les objectifs seront atteints contre ce qu'il appelle encore, je le cite, la dictature néo-nazie ukrainienne. On en vient aux difficultés économiques de la Russie après un peu plus de 2 ans de sanctions occidentales. Difficulté illustrée par la rareté du yuan, la monnaie chinoise. Elle est de plus en plus utilisée depuis 2 ans. Sauf que les banques chinoises se montrent de plus en plus réservées à prêter des yuan. RFI Pékin, Cléa Broadhurst.
Alors que la Chine cherche à étendre son influence mondiale, ses liens avec la Russie sont à double tranchant. La dépendance de la Russie au yuan chinois a créé des risques majeurs. Les banques russes en manquent, notamment à cause de la prudence des banques chinoises à travailler avec des entités russes en raison des sanctions internationales. Pour la Chine, cela présente des enjeux importants. Pékin doit éviter de violer les sanctions mondiales sous peine de subir à son tour des sanctions qui pourraient menacer son accès aux marchés internationaux, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Pékin, en soutenant étroitement Moscou, risque de s'isoler de ses autres partenaires mondiaux. De plus, la forte dépendance de la Russie au yuan expose la Chine au risque lié à l'instabilité économique russe. Si la situation en Russie continue de se dégrader, les entreprises chinoises opérant en Russie pourraient subir des pertes financières conséquentes. Enfin, même si l'utilisation du yuan augmente en Russie, cela n'en fait pas une monnaie internationale majeure. Le yuan reste peu présent dans les réserves mondiales et continue à être limité par les contrôles des capitaux en Chine. L'usage accru du yuan en Russie ne remet pas pour autant en cause la domination du dollar américain. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
La musique country vient de perdre l'une de ses étoiles.
L'acteur, chanteur et auteur-compositeur Kris Kristofferson, il avait 88 ans, lui dont on dit qu'il a inspiré Bob Dylan, Edmond Sadaka.
Me and Bobby McGee, interprété ici par l'américaine Janis Joplin au tout début des années 70. Ce fut l'un des grands succès écrits par Kris Kristofferson, à qui l'on doit quelques autres classiques comme Sunday Morning Coming Down, qu'il avait sorti en 1972. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. S'il fut l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes country, Christopherson s'était donc fait connaître aussi au cinéma par quelques rôles marquants, notamment aux côtés de Barbara Streisand dans Une étoile est née, un rôle pour lequel il fut récompensé d'un Golden Globe en 1976. Le chanteur Chris Christopherson avait continué à se produire régulièrement sur scène jusqu'à sa retraite artistique en 2021. Il avait alors 84 ans. I was running through the summer rain. Trying to catch the evening train and kill that old familiar pain weaving through my tangled brain. But when I tipped my bottle back, I smacked into a cop I didn't see.
Chris Christopherson, 14h15 à Paris. RFI Midi continue avec vous, Anne Cantener.
Merci Florent Guignard. On va parler de l'actualité sportive. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et ce matin, c'est bien sûr l'annonce d'Antoine Griezmann qui fait la une. Antoine Griezmann qui prend sa retraite internationale.
Ouais, un sacré et très imprévu coup de tonnerre dans la Maison Bleue, Anne. Cette annonce en fin de matinée, donc de Grisou, comme on l'appelle, l'une des pièces maîtresses sur et en dehors du terrain de l'équipe de France depuis un peu plus de 10 ans. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde.
On ne l'avait pas vu venir, hein, celle-là.
Oui, un sacré coup de Grisou sous la forme d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Antoine Griezmann lui-même en voix off annonce sa retraite internationale avec une profonde émotion et le cœur plein de souvenirs, dit-il, en précisant qu'après 10 années incroyables, il était temps pour lui de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. C'est en effet en 2014 que l'histoire d'amour entre Grisou et l'équipe de France a débuté, avec Didier Deschamps, même le sélectionneur, qui en a rapidement fait son homme de base. Ensemble, ils ont été de toutes les plus belles conquêtes tricolores, le titre de champion du monde de 2018 en Russie, la finale de l'Euro 2016, compétition dont Antoine Griezmann fut élu meilleur joueur, et la nouvelle finale de Coupe du Monde il y a 2 ans au Qatar. Cela a donné 137 sélections, 44 buts inscrits et un titre de meilleur passeur de l'histoire des Bleus avec 30 offrandes délivrées.
Une histoire d'amour, Eric, entre Dédé et Grisou, qui a toutefois connu quelques accrocs ces derniers temps.
Premier coup de canif en mars 2023 avec la décision de Didier Deschamps de ne pas lui confier le brassard de capitaine abandonné par son ami Hugo Lloris, parti à la retraite. Le sélectionneur lui préférant Kylian Mbappé, une vraie blessure pour Grisou. Deuxième déception, son déclassement à l'Euro cet été. Le milieu offensif s'est retrouvé à 2 reprises sur le banc, notamment lors de la demi-finale perdue contre l'Espagne. Antoine Griezmann n'était plus incontournable, comme il a pu encore se rendre compte le mois dernier, face à la Belgique, n'entrant en jeu qu'à 10 minutes de la fin. Ajouté à cela, le blues de l'absence d'Olivier Giroud, autre grand copain, parti lui aussi à la retraite. L'envie de jouer en bleu pourtant est toujours là, déclarait-il alors, avec en tête le rêve de disputer la Coupe du Monde 2026. Antoine Griezmann qui précisait toutefois à ce moment-là que ce serait à Didier Deschamps de choisir. Apparemment, ce manque de certitude sur son statut en équipe de France a fini par le lasser.
Et Didier Deschamps, Eric, qui lui a rendu un vibrant hommage, on peut le dire comme ça, hein, tout à l'heure via un communiqué.
Le patron des Bleus était au courant de la décision d'Antoine Griezmann. Selon lui, il restera l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Un monument, Didier Deschamps qui se dit très ému par cette décision. On a souvent dit qu'Antoine était mon chouchou, écrit-il en ajoutant que cette relation très forte restera intacte. Et Dédé de conclure, du fond du cœur, merci pour tout, mon Grisou. Grisou, qui était aussi l'un des grands chouchous, voire le chouchou du public français.
Ah oui, on se souvient, cet été, on était nombreux, et ils étaient nombreux, les Français, à guetter ces alertes sur X, alerte, médaille. Dès qu'un membre de l'équipe de France gagnait une médaille, baf, on le savait, souvent, par Antoine Griezmann, grand supporter. Merci Eric Mamrut, une annonce qui intervient juste avant que Didier Deschamps ne communique sa prochaine liste de joueurs retenus pour les matchs d'octobre face à Israël, puis en Belgique. Antoine Griezmann qui n'a pas marqué hier soir dans le derby de Madrid avec l'Atlético à domicile face au Real. Un partout score final, les Colchoneros restent troisième à 2 longueurs du Real, à 5 du Barça leader.
Du football en France aussi hier avec la première défaite de Marseille en Ligue 1 cette saison.
Ouais, l'OM battu 1-0 à Strasbourg, hein, les hommes de Zerbi laissent filer des points dans la lutte pour le titre à 3 longueurs désormais du PSG de Monaco. Les Phocéens dominés par des Strasbourgeois pourtant jusqu'ici en difficulté. C'est leur première victoire en 4 matchs. C'est Ismaël Doucouré qui le rappelle.
D'abord féliciter le groupe parce qu'on a montré un bel état d'esprit. Depuis le début de saison, on se bat les uns pour les autres et le collectif a primé ce soir. C'est beaucoup d'entraînement, On s'entraîne beaucoup, tactiquement on est au point. Donc je pense que c'est une victoire collective, on va dire. Le coach, il est arrivé avec ses idées. On a le profil de joueur qu'il faut, donc on adhère et ça nous réussit pas mal.
Voilà pour Ismaël Doucouré chez nos confrères de DAZN, Strasbourg 8e de la Ligue 1 désormais.
Et on termine avec du tennis en Asie.
Ouais, vite, vite, demi-finale explosive en vue demain à Pékin où Carlos Alcaraz, l'Espagnol, affrontera le Russe Medvedev. C'est pas mal. Ça pourrait être pas mal aussi l'affiche de Tokyo si on est supporter français. Il y a deux Français en demi-finale de ce tournoi. Hugo Humbert, lui, a déjà validé son ticket pour la finale en battant le Tchèque Marchak en trois manches. Et Arthur Fils, en ce moment, tente de l'y rejoindre face au Danois Holger Rune, c'est pas mal parti. Fils a remporté la première manche il y a quelques instants. 7 jeux à 6 au jeu décisif.
Et toute l'actualité sportive est sur internet rfi.fr. Merci Olivier Pron.
RFI Midi, le monde à la mi-journée. Anne Cantner.
On va revenir maintenant sur la guerre au Liban. Elle va se poursuivre. Le ministre israélien de la Défense a annoncé il y a une demi-heure que la mort d'Hassan Nasrallah n'était pas la dernière étape. On a entendu le gouvernement libanais redouter une invasion terrestre, une offensive terrestre. Alors, ces dernières heures, ces derniers jours, le Hezbollah a réagi, l'Iran un peu, mais pas le gouvernement libanais, ou quasiment pas, et pas non plus les personnalités politiques hors Hezbollah. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi avec notre invité. Bonjour Fabrice Balanche.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université Lyon 2. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient, notamment les leçons de la crise syrienne, le premier affrontement entre l'Occident et l'axe eurasiatique, qui est paru chez Odile Jacob. Comment se fait-il qu'on n'entende personne d'autre ou quasiment personne d'autre que le Hezbollah en ce moment ?
Parce que les dirigeants libanais sont extrêmement prudents. C'est-à-dire que beaucoup, finalement, en secret, se réjouissent de la mort de Nasrallah, de l'affaiblissement du Hezbollah, mais ils n'osent pas évidemment le dire publiquement parce que Nasrallah, c'était un dieu vivant. Et tous ceux qui osaient le critiquer pouvaient être éliminés. On se souvient dans le passé de l'assassinat de Samir Kassir, plus récemment Lokman Slim, un intellectuel chiite. Et donc il n'y a guère que les phalangistes, les kataeb, donc la droite chrétienne comme Sami Gemayel qui ont osé publiquement le critiquer. Critiquer son rôle en emmenant le Liban dans la guerre face à Israël. Mais sinon, les autres sont extrêmement prudents.
Ça veut dire que le Hezbollah, même après avoir reçu les coups qu'il a reçus ces derniers jours et ces dernières semaines, fait encore si peur que ça ?
Ouais, vous savez, le Hezbollah est plus solide qu'on ne le croit, qu'on ne le dit. Son potentiel militaire a été entamé, certes, mais il conserve énormément de missiles, de roquettes pour frapper Israël. Il possède dizaines de milliers de combattants. Alors, 10 à 20 000 à temps plein, mais vous avez aussi des dizaines de milliers en optionnels qui peuvent rejoindre les rangs du Hezbollah. Et puis il est partout au Liban. Il peut assassiner n'importe qui quand il le souhaite. Donc il fait effectivement très peur à la classe politique libanaise.
Alors il y a tout de même un certain flottement au sein du Hezbollah. Qui aurait intérêt à profiter de ce vide ?
Au sein du Hezbollah, un flottement, bon, ça c'est l'impression que ça donne depuis l'extérieur, parce qu'en fait
C'est une mauvaise lecture selon vous ?
Oui, c'est une milice qui est extrêmement centralisée. Donc il n'y a pas de conflit en interne. De toute façon, c'est l'Iran qui va adouber le successeur de Nasrallah. Il va pas y avoir de scission ou quoi que ce soit. Le flottement qu'on peut avoir, c'est quels sont les traîtres ? Qui a trahi ? Qui a renseigné Israël ? Donc là, ça va entraîner effectivement des purges au sein de l'appareil. Mais sinon, c'est un parti extrêmement centralisé. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contestation.
Alors, on n'entend pas non plus le président syrien, qui lui doit beaucoup pourtant au Hezbollah. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Parce que Bachar al-Assad a très peur d'être le prochain sur la liste. En octobre 2023, après donc le 7 octobre, les Israéliens ont signifié à Bachar al-Assad que s'il intervenait contre Israël, avec le peu de force qui lui reste, eh bien on pourrait changer d'avis à son égard, c'est-à-dire l'éliminer. Et justement, dans mon ouvrage, j'explique à partir de rapports israéliens que c'est sans doute pour cela qu'il ne s'est pas rendu à la COP28 à Dubaï, où il était invité. Et c'est là où ça aurait été sa réintégration, je dirais, dans le concert international. Il n'a pas osé s'y rendre, de peur sans doute que son avion croise un missile.
Alors les relations avec les autres pays arabes n'étaient pas très bonnes, notamment avec l'Arabie Saoudite, qui considère, elle, le Hezbollah comme un mouvement terroriste. Riyad a dit il y a quelques heures sa grande préoccupation, a appelé au respect de l'intégrité territoriale du Liban. Il n'y aura pas plus que cette réaction qui est assez classique, selon vous ?
Oui, ça c'est le communiqué minimum. Non, le mouvement chiite, évidemment, est persona non grata dans tous les pays sunnites, l'Arabie Saoudite en tête. Déjà en 2006, lorsqu'il y a eu la guerre entre le Hezbollah et Israël, l'Arabie Saoudite n'a absolument pas bougé. Il faut dire quand même que le Hezbollah, avec le régime syrien, font partie des supposés commanditaires et acteurs de l'assassinat de Rafik Hariri, citoyen libano-saoudien, qui était ancien premier ministre du Liban. Et ça, évidemment, les dirigeants saoudiens ne l'ont jamais digéré.
Je vous remercie, Fabrice Balanche, d'avoir été en ligne avec nous, maître de conférence en géographie à l'Université Lyon 2. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur le Moyen-Orient, et notamment celui-ci, Les leçons de la crise syrienne, le premier affrontement entre l'Occident et l'axe eurasiatique, qui a été publié chez Odile Jacob. Merci.
RFI Midi.
Le moment est symbolique au Royaume-Uni. La dernière centrale électrique à charbon ferme ses portes ce soir. Le pays est le premier au sein du G7 à renoncer à cette source d'énergie en vue de produire une énergie dite propre d'ici à 2030. L'objectif est donc en voie d'être atteint, Emeline Vin, mais la fermeture signifie aussi la fin d'un monde pour les ouvriers et les employés de la centrale.
Les 8 immenses tours de refroidissement de la centrale à charbon de Ratcliffe-on-Soar dominent le paysage.
Quand vous rentrez chez vous après un long trajet et que vous apercevez ces tours, vous savez que vous êtes à la maison.
John a grandi à 5 km de la centrale, la dernière du pays à produire de l'électricité au charbon.
Il y a une vingtaine d'années, j'ai failli devenir apprenti en ingénierie électrique. On était une centaine à postuler. On nous a montré ces 3 énormes turbines au travers desquelles passait la vapeur. Les gens avaient l'air d'adorer leur travail, ils avaient un bon régime de retraite et il y avait même un terrain de golf sur le site.
Devenu jardinier, le quadragénaire souligne avec fierté que le Royaume-Uni est le premier pays à renoncer totalement au charbon. La fin d'une époque, soupire Ray State, ancien ingénieur ferroviaire qui acheminait le charbon jusqu'à Ratcliffe.
On parlait du roi charbon. Notre révolution industrielle s'est basée sur le charbon. La génération d'énergie, toutes nos usines fonctionnaient au charbon.
Aujourd'hui, délégué de la centaine d'habitants du village, le retraité enchaîne les rendez-vous avec les dirigeants de la centrale. Son inquiétude, l'avenir du site au milieu d'une zone rurale tranquille.
Nous ne savons pas qui va s'installer, quel type d'entreprise. Que va-t-il se passer si ce ne sont pas des entreprises vertueuses, mais des indésirables? Un centre de distribution, par exemple?
L'entreprise n'a pas détaillé ses plans. Le charbon ne pèse plus qu'un pour cent dans le mix énergétique britannique. Pour l'analyste Jess Ralston du think tank Energy and Climate Intelligence Unit, le Royaume-Uni opère tout de même un pas de géant.
Cela montre au reste du monde que c'est faisable. On nous promettait des blackouts, des coupures de courant, des discours qu'on entend aujourd'hui au sujet des énergies renouvelables, alors que le solaire et l'éolien sont désormais peu chers, que des batteries commencent à arriver pour stocker l'énergie. La fin du charbon au Royaume-Uni marque vraiment un tournant mondial.
Mais le Royaume-Uni a-t-il les moyens de parvenir à une énergie propre en 2030 ?
Nous aurons du travail. Il faudra développer beaucoup plus le renouvelable, l'éolien en mer. Il faudra s'assurer que le réseau de transmission de l'électricité peut supporter cet apport. C'est ambitieux, mais nous sommes nombreux à penser que c'est possible avec de la volonté politique.
Le nouveau gouvernement travailliste a déjà annoncé la création d'un fournisseur d'énergie renouvelable public pour approvisionner en électricité plus de 6 millions de foyers d'ici 2030. Emeline Vin, de retour de Ratcliffe-on-Soar, RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est presque 14h30 ici à Paris et dans quelques secondes, on se retrouve pour l'actualité africaine. A tout de suite.
RFI à Korogo, 97.6 FM.
Session Lab, un podcast musical réalisé par RFI Labo avec Hortense Vol.
Une écriture abrupte, sincère et pudique, une musique hybride, un flow au goût de la passion. La franco-ivoirienne Issa Yazuke est dans Session Lab.
Retrouvez Session Lab avec Hortense Vol en podcast, en audio 3D, sur toutes les plateformes.